Tu crois que la voyante va nous annoncer une mauvaise nouvelle? Ça me stresse en vrai.
Mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je te le promets.
Bonjour.
Bonjour. Asseyez-vous. Une question importante. Poule oracle, avec boule ou sans boule?
Hé, toi, tu vois ce petit couple-là? Eux aussi, ils ont envie de savoir comment ça sera demain. Et tu sais quoi? Nous, on est 14 éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et ça fait une semaine qu'on se creuse la tête sur cette question. Et c'est pas si facile que ça. Pour parler de demain, faut d'abord être au clair avec son passé. Il y a les optimistes, les pessimistes, les réalistes, les utopistes. On te propose d'écouter ça maintenant.
Penser le lendemain, moi, ça ne me fait pas peur. Avancer pas à pas, affronter les difficultés, se relever, se reconstruire sans cesse. Ça, je sais le faire. Je l'ai fait toute ma vie. Je viens de la Guadeloupe, d'un milieu modeste. Pas beaucoup de moyens, mais beaucoup de courage, de solidarité. Ça m'a fait grandir, fière de la femme que je suis devenue, engagée aux côtés des autres. Le Covid a mis le monde sur pause. En Guadeloupe, il a bousculé notre vie, changé notre façon de voir demain. Plus de bateaux, plus d'avions, la nourriture n'arrivait plus. Alors, on a dû se réorganiser, produire sur l'île, cultiver notre potager, se mettre à coudre, se saisir des richesses que nous avons et surtout se soutenir tous pour ne pas sombrer. Et après le Covid? Oh, j'ai l'espoir que ça va continuer. J'ai espoir en l'avenir. Comme on dit souvent chez moi, c'est grain d'iri qu'a fait sac d'iri. Alors, mettez-moi en manioc. Ça veut dire qu'un grain de riz après grain de riz, on obtient un sac. Alors, il faut se mettre au travail. Et ça, ça me va bien. C'est ma façon de voir la vie. C'est comme ça que j'ai cheminé. Apporter ce que je peux et faire de mon mieux. J'espère que ça finira par faire un mouvement.
J'ai 30 ans, j'essaye de m'y faire. Je sens qu'il faut que je fasse le point. Quelle sera ma place, mon rôle dans le monde de demain? On demande souvent aux femmes de mon âge, « Et alors, quand est-ce que tu nous fais un enfant ?» On me dit que ça presse, qu'il y a l'horloge biologique, qu'après ce sera trop tard. Faire des enfants, c'est un automatisme pour certains. Je me demande si ça a du sens pour moi. Je me pose plein de questions. Je sais que pour certains, ça peut être effrayant de mourir sans avoir eu d'enfant. Mais je crois pas avoir besoin de faire des enfants pour laisser ma trace. On dit aussi qu'on peut pas être une femme sans être mère. C'est un stéréotype que j'ai envie de combattre. J'ai envie de montrer d'autres manières d'être une femme, d'ouvrir des routes différentes pour les petites filles. Et puis aussi, je sais que ça peut paraître bête, j'ai peur de pas avoir assez d'énergie pour élever mes enfants sans qu'ils ne manquent de rien, et surtout pas de moi. Et en même temps, vivre tout ce que j'ai à vivre, le boulot, mes engagements. Et puis quand je regarde les enfants d'aujourd'hui, je me demande quel monde on leur laissera demain. Est-ce que c'est raisonnable de donner naissance à un nouvel enfant alors qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait? On court certainement à la catastrophe écologique. Moi, ce que je veux, c'est transmettre, éduquer. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des enfants pour y arriver? J'ai choisi d'être éducatrice. La question qui m'anime aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont déjà là? Il y a des parents qui le sont devenus à 15 ans, sans l'avoir choisi ou sans avoir eu le temps d'y penser. Et il y en a qui sont dans la galère et qui essayent de s'en sortir comme ils le peuvent. Pour moi, être éducatrice, c'est croire en un avenir pour ses enfants, leur transmettre des valeurs, leur donner des outils pour s'en sortir, pour penser librement. C'est ma manière d'agir à travers eux pour le monde de demain.
Bonjour monsieur.
Bonjour, enchanté de vous connaître.
Bonjour, bonjour.
Monsieur Sablé-Rollalet, alors ancien maire de Fleury, et monsieur David Dubouillet était mon directeur général des services à l'époque, donc qui connaît un peu l'affaire de la bulle qui dure depuis plus de 20 ans et qui est terminée maintenant quand même. Alors si vous voulez, on peut aller visiter la bulle, on peut aller visiter l'ancienne bulle, puisqu'elle n'est plus là, voir ce qu'il en reste quand même. Hein. Et je vous montrerai sur des documents comment c'était prévu à l'époque. Mais enfin, bon, ça a été un fiasco judiciaire et financier pour la commune. Fleury-Dode fait partie de Fleury-Saint-Pierre-et-les-Cavannes. C'est trois identités, mais c'est une même commune donc, qui a l'année à 3 500 habitants. Il était 50 000. Mais alors c'était pour amener du tourisme et finalement ça a été un flop complet.
D'accord, on vous suit alors.
Bonjour.
Donc là on est en train de rentrer à l'intérieur de la mairie annexe et l'office de tourisme. Voilà, on vient
de... ici c'était l'accueil de la bulle qui était de l'observatoire. Donc c'était la partie extérieure, la partie accueil, et on descendait.
Il faut mettre la clé en service.
Et donc à partir de là, c'était une étape de transition, parce qu'après
là, il y avait un hall.
Voilà.
Un hall, et il y avait l'accès, alors qui était là, oui, qui était là, un accès qui descendait.
Et
qui...
Par
ce tunnel, on descendait dans la bulle qu'on voit là.
Ok, donc ça voilà, c'était juste ici.
Bon, alors au départ, donc ça, on va expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est en 88, on est sous l'époque de François Mitterrand, et ils ont décidé de faire une émission, donc un 13 heures, en relation entre les fonds marins et Jean-Loup Chrétien. Alors, M. Chrétien était un astronaute qui allait partir en orbite. Donc, ils vont voir un architecte qui est M. Rougerie. Alors, M. Rougerie a fait aussi à Dunkerque à peu près le même système, mais bon, qui marche là-bas. Alors, alors, ça va très, très, très vite parce que dans l'année, il faut qu'il le fasse. Malheureusement, en creusant, ils trouvent que l'eau est saumâtre.
Vous étiez maire à cette époque-là?
Non, là, j'étais pas maire, moi. Hein. Moi, je suis maire en 2001. Alors, je connais la bulle que parce que je suis habitant du temps, en 88, j'étais sur la commune.
Est-ce que tous les habitants de la commune étaient favorables à ce projet d'observatoire des fonds marins?
Il y en avait certains, ceux qui avaient le côté mairie, était favorable. Par contre, il y avait une opposition qui était défavorable.
Donc, on est à cette époque-là, la station balnéaire n'est pas développée. C'est un moyen pour les élus locaux de propulser cette station, c'est-à-dire d'avoir un coup de projecteur sur la station. Et ils se disent, il y a une opportunité à saisir. François Mitterrand, c'est quand même le premier homme d'État. Et il nous demande d'ici un an d'avoir mis en place quelque chose qui est novateur sur la région et qui va nous permettre de nous développer. Donc, ils lèvent la main et ils disent, nous, on y va.
Mais du coup, qu'est-ce qui a amené à ce fiasco, justement?
Le fiasco, il arrive, c'est que la bulle se fait, mais bon, il y a des problèmes avec l'eau saumâtre, etc. Donc, vous le voyez sur ces photos-là, on ne voit rien. La bulle était soi-disant, ça permettait d'avoir 50 visiteurs par jour, donc ils avaient étudié quand même. Ils font ces travaux et il se trouve que ce n'est pas 50 personnes, c'est 19 personnes qui rentrent dans la bulle. Donc ça fait trois fois moins pour l'investissement. Les problèmes sont un coût au départ 16 millions de francs et en 88, les travaux qui ont coûté plus cher, ça arrive à 36 millions. Ça fait que ça a été terrible pour la commune quand même.
Est-ce que l'affaire de la bulle, est-ce que ça a fait que Fleury, ça a été un peu la risée dans le coin à un moment?
Politiquement, oui, ça a été vraiment la risée. Le village s'est déchiré en 88, il s'est déchiré. Hein. Euh,
l'ancien maire qui a été condamné, il a eu droit à un tractopelle dans sa maison, démonter sa clôture. Les premières années, ça fait de gros dégâts quand même sur la commune. Hein,
les relations de la population, elles ont réussi à s'apaiser?
Oui, là, oui, là, maintenant, ça va mieux. À part, bon, avec des élections comme partout, ça chauffe.
Alors, si vous aviez un conseil à donner à un maire qui vivrait la même situation que vous, quel serait ce conseil?
Surtout, se garantir quand même que les projets soient viables, parce que sinon, ça part à volo, oui.
Bon, ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment gentil de nous accueillir ici, de nous montrer vous, tout ça. On sent que c'est...
Oui.
Que vous connaissez bien, en tout cas, mais
en fait,
normal.
On l'a connu, on l'a vécu, et ça nous a empêché de dormir quelques nuits de temps en temps.
Lettre à la petite ado que j'étais. On est mardi aujourd'hui, et je me trouve au bord de mer. Je me suis posée un moment, je suis apaisée, et j'ai eu envie de t'écrire ces quelques lignes. À toi, la petite ado de 15 ans. Je voulais te dire que j'étais fière de toi, de qui tu es devenue. Plus tard, tu verras, tu t'aimeras. Faut pas avoir peur. La vie, ça va, ça vient, mais tu as tout entre tes mains. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'essayer, de tenter et surtout de te tromper. Cogne-toi à la vie, car c'est comme ça que tu vas grandir. Tu verras, les parents voudront toujours te garder entre leurs bras, mais ta vie... Tes choix n'appartiennent qu'à toi, et il te faudra encore du temps pour t'accepter et croire en toi. Les parents sont comme ils sont, avec leur angoisse et leur amour. Accepte-le. N'écoute pas ce que les autres voudraient pour toi et disent de toi, car toi seul sais ce que tu as au fond de toi. Quand la vie va devenir dure, n'oublie jamais qu'elle est belle, et elle le sera toujours. Je te préviens, va y avoir des moments difficiles. Tu vas approcher la souffrance, mais tu vas t'en servir pour grandir. À toi, la petite ado qui te retrouvera dans un lit d'hôpital, accroche-toi. Et n'oublie pas que même si tu as peur, même si tu as peur que ton cœur s'arrête de battre, tu vas aller traverser ces moments. Même si pour l'instant, tu crois que c'est pas possible, tu pourras toujours te dépasser. La vie, c'est globalement que ça. Se cogner et se relever, se tromper et recommencer, se chercher et s'accepter. À la petite moi qui a peur de l'inconnu, qui se cherche encore et qui est bloquée par les angoisses de ses parents. Je peux te dire, aujourd'hui, que ça va finir par être chouette. Promis. Tu vas aimer, beaucoup, rester sensible, toujours, et faire preuve d'une très grande force.
Ma grand-mère n'a pas eu une vie facile. Elle a vécu les guerres, les changements de pays et de culture. Elle a toujours gardé la tête haute, même si elle a subi les déracinements et la violence. Elle est restée debout, une femme forte. Se respecter, ne pas s'oublier, ne pas subir et surtout avancer quoi qu'il se passe. Ne pas avoir de regrets, se donner le temps pour se reposer, se ressourcer et partager. Elle a transmis ça à ses enfants. Ma mère, elle a tout pris et ça l'a toujours porté, encore aujourd'hui, pour traverser ses épreuves à elle. La pièce de vie chez nous a toujours été la cuisine. Un lieu de partage, de travail, de discussion, de réconfort. Un lieu où on se retrouve. C'est là que tout se passait. On faisait ensemble et l'air de rien, je me remplissais de ce qu'elles étaient. C'est sur elles que j'ai commencé à poser les fondations de celle que je suis aujourd'hui. Croire en moi, croire en l'autre, aider, soutenir, réconforter et surtout ne pas subir. Je suis construite de ces femmes avant moi et c'est avec cette énergie que j'ai élevé et accompagné mes enfants. Je suis pas sûre d'avoir réussi à tout leur transmettre, mais au fond de moi, je sais que les bases, elles y sont. Car eux aussi, ils ressortent de temps en temps la recette notée par ma grand-mère sur le dos d'une vieille enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a les souvenirs et les odeurs qui remontent, et toutes ces valeurs pour affronter demain.
Oh, demain, on regrettera la rupture de Benjamin, Alix, dans les Marseillais, tu as compris, bébé.
Demain, je serai celle à laquelle j'aspire à devenir depuis toujours.
Demain, je serai plus stable dans mes bottes.
Demain, je serai une nouvelle moi.
Je serai optimiste.
Je serai heureuse de découvrir le monde.
Demain, le monde sera respirable.
Demain, le monde sera ouvert d'esprit.
Demain, le monde sera
3,
à mes pieds.
4.
Si on devait mourir demain.
Demain, nous n'aurons plus l'occasion de venger la liberté perdue.
Demain, nous n'aurons plus l'occasion de nous aimer.
Nous n'aurons plus l'occasion d'être tristes.
Nous n'aurons plus l'occasion de craindre la Covid. On saura la gérer.
Demain, nous n'aurons plus l'occasion de procrastiner.
Demain, j'irai ou pas.
Demain, j'irai mieux.
Et bien sûr, demain, le monde sera plus agréable.
Demain, demain, demain.
Demain, j'irai à la recherche du bonheur.
Quatre ans de ma vie à redouter l'échec, à être certaine de ne pas pouvoir, pas être assez bien, assez forte pour réussir demain. Le pire, j'ai jamais échoué. En guise de spectatrice et actrice de mon morose spectacle, ma mère, la battante, l'acharnée, l'insatiable de savoir et de curiosité, la lionne et la louve. Comment être une enfant à moitié, faire les choses à moitié et l'accepter quand elle vous rêve excellente, sublime, douée, quand elle vous imagine faire ce qui ne lui a pas été donné. Comment le mériter? Elle le sait, je lui dois ma peur de l'échec. Et puis un jour, la PJJ, le concours, le métier. Et cette phrase. Bienvenue, vous êtes engagée à l'État pour 7 ans. 7 ans. Je le répète quelques fois et c'est le temps qui prend son sens, mon existence qui prend du poids. Je découvre d'autres peurs. Serais-je une bonne éducatrice? Est-ce qu'ils sont sûrs de ne pas s'être trompés en me choisissant? Cette phrase, vous êtes admissible. Ma mère qui vibre avec moi pleure de joie. Elle ne voulait pas de ces lendemains pour moi, les allers-retours au resto du cœur, les fringues du secours populaire, les ciseaux sur les bons de réduction alimentaire. Demain, je deviens éducatrice. Je prends ce que la lionne, la louve, la société et le monde m'ont donné, dans l'espoir d'en rendre un peu. Un peu de tout ce que j'ai d'amour, de bienveillance, de courage et de force. Je me saisis du temps qui a passé, de tout ce que j'ai reçu de beau et de bon, puis abdique. Je mets la peur en cage et ouvre la grille de demain. Depuis ce concours et pour tous les jours à venir, j'accepte un peu de réussir.
À quoi ça sert de faire des études alors que tu pourrais travailler au supermarché à 10 km ? J'ai souvent entendu cette phrase. Depuis toujours, j'ai la volonté de faire du droit. Quand je dis toujours, c'est précisément depuis le CE2. En réalité, en septembre de cette année-là, mes camarades de classe avaient décidé de me faire payer le fait d'avoir un « caractère autoritaire », comme elles l'ont si bien dit. Pendant toute cette année, elles ont mis à mal toute la confiance que j'avais en moi. Personne n'a vu, personne n'a compris. C'est cette année-là que j'ai décidé de rétablir la justice. J'ai donc travaillé pour ça, je n'ai rien lâché et je me suis surpassée. Après le bac, je suis partie à plus de 200 km de ma campagne pour atteindre mon but, m'engager dans des études de droit. Dans ma famille, personne n'a fait d'études supérieures. Alors bien sûr, il y a de la fierté, mais il y a aussi toujours un doute. Pourquoi faire tout ça alors que tu pourrais être caissière tout près de chez toi? Les années à la fac s'enchaînent. Je continue d'être acharnée et je réussis mes études. Leur fierté augmente et leur ambition aussi. Je voudrais que tu sois procureur de la République. Peut-être que le fait de me rappeler sans cesse où j'allais soi-disant finir, c'était leur manière de me ramener à la réalité. Ces phrases, dites sur le ton de la rigolade, m'ont parfois touchée, blessée. Mais finalement, elles m'ont poussée. Je voulais leur montrer que je faisais le bon choix en m'éloignant de ce supermarché. Je viens d'un milieu rural et je suis consciente de la chance qu'ils m'ont offerte. Et non, papa, je ne finirai pas procureur de la République. Maintenant, j'ai un autre objectif. Je veux aider des jeunes. Oui, certains ont commis des injustices. Mais est-ce qu'ils n'en ont pas subi, eux aussi? J'ai choisi d'être éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Pas si mal pour quelqu'un qui veut rétablir la justice, non?
Nous sommes à l'impasse des Dorades. Alors, allez, on sonne. Donc bonjour, nous sommes la radio. Oui. Donc on travaille sur le sujet de demain. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, ben bonjour. Je m'appelle Lynn Constantin. J'habite à Narbonne-Plage et je travaille. Je suis artisane d'art, donc je fabrique des meubles en carton et autres objets à partir de matériaux recyclés. voilà, je vais vous inviter dans mon atelier. Alors, je vous préviens, il est très petit. Donc là, en ce moment, je travaille sur beaucoup de... Je travaille toujours le carton, mais je travaille aussi sur le fait de travailler avec n'importe quel déchet, n'importe quel... Enfin, même pas déchet, emballage, enfin, tout ce qu'on utilise dans la vie quotidienne qui finit par finir à la poubelle. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir réutiliser toutes les matières. Donc là, je suis en train d'essayer d'autres matériaux. Et là, je m'y connais moins, donc je suis un peu en phase de test pour pouvoir donner des cours ensuite. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous écoute.
Moi, j'avais une question. Vous devez faire pas mal de balades sur la plage, ramasser certaines choses. Mm-hmm. Est-ce que l'impact écologique, voilà, ça vous parle? Vous avez constaté depuis un moment que voilà, peut-être les plages se dégradaient ou, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui?
Alors, donc pour vous dire quand même, juste pour cadrer le truc, c'est qu'avec une copine, on organise régulièrement des ramassages en fait sur la plage parce que effectivement, il y a vraiment de quoi faire. C'est terrible. Non, la plage, c'est terrible. On vit dans du jetable partout. J'en suis au stade où je comprends pas en fait. Je comprends pas dans quel monde on vit parce que. Ce qui arrive sur la plage, alors on a le fait des touristes qui nous laissent beaucoup de déchets, des locaux aussi, parce qu'en hiver il y a aussi, mais c'est plus sur la plage, c'est sur les bords des routes. En fait, ici à Narbonne-Plage, on a l'Aude qui se déverse dans la mer. Et en fait, l'Aude charrie énormément de déchets. Et en fait, ils aboutissent tous sur la plage et c'est des pneus, on trouve des moteurs, enfin des trucs de fou. Bon, après, c'est le paradis, hein, parce que alors, quand on est bricoleur, il y a plein de choses à faire. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, moi, en étant suisse et en allant régulièrement voir ma famille en Suisse, je me rends compte que c'est un peu partout pareil, quoi. C'est pas lié que aux plages, que au tourisme. En définitive, quand on commence à ouvrir l'œil, il y en a partout. Alors après, quoi faire? J'ai pas de solution. Et c'est là où, justement, moi, mon travail aussi de communication, en fait, avec les gens, c'est aussi de réfléchir à, justement... à revaloriser l'emballage, en fait, c'est lui redonner une valeur. Parce que vu qu'on est tout le temps dans des histoires d'économie et de machins et de trucs, c'est justement, c'est de pas considérer que c'est jetable, mais que c'est précieux. Et en fait, je trouve que le monde dans lequel on vit est triste parce que on considère que, je sais pas, les cagettes, c'est pas précieux.
Donc, pour résumer, vous mettez vraiment votre talent pour défendre une cause
ouais.
Qui vous est chère.
Oui, vraiment. Puis surtout que les gens, c'est de leur ouvrir des possibilités. C'est pas justement le truc que je trouve intéressant avec le carton, avec la récup, c'est de montrer que c'est pas que des déchets qui nous tombent dessus, c'est aussi de la matière première qu'on peut réutiliser et qu'on peut transformer et qu'on a ce pouvoir-là dans nos mains. Donc c'est plus le pouvoir d'être consommateur, c'est aussi le pouvoir de pouvoir créer. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir le transmettre. Et d'ailleurs, ça va venir. Hein, mais c'est d'ailleurs, vous êtes là, la preuve. Mais c'est un peu mon objectif.
Rappelle-toi, Gégette, quand t'étais dans le bus là, qui te ramenait du collège, au fond du car avec les copains de la 3e 6. Tu aimais déjà te laisser aller aux éclats de rire, les échanges de missiles à haute voix et les punchlines qui n'en finissaient pas. Combien de fois avec la bande on s'est retrouvé au terminus juste pour prolonger ces instants-là de rire, de joie, de légèreté? Pouah, c'était du lourd. Rappelle-toi, tu t'amusais à faire des pronostics de vie et d'avenir pour toi, pour les copines. Et avec Aline, tu te marrais à lui faire des signes quand dans le bus montait une dame brune avec ses fils. Regarde ce qui t'attend, je lui disais, morte de rire. À l'arrière du bus 28, pendant 3 ans, en vrai, c'était l'insouciance. Pas de soucis, pas de galères, les adultes qui nous gèrent. Tu as grandi, hein? Tu as mûri. Tu t'es forgé dans ta fratrie, qui compte aussi beaucoup d'amis. Ouais, tu le vois, hein? Je connais ton histoire, et je connais même ton devenir. Sois pas surprise, c'est juste que cette ado de 15 ans que tu es là, elle est devenue moi aujourd'hui. Alors je peux te dire une chose. C'est que tu vas partager ta vie, tu vas finalement te marier, que tu vas avancer à 2 pour très vite devenir 3, que tu vas mettre au monde Mona, ton mini-toi, ce petit bout de chair qui va te faire devenir mère. Les joies, les rires en rafale, mais aussi les insomnies, tu verras. Pour un beau bijou, en vrai, il faut y mettre le prix, hein. Et ce luxe, tu vas te l'offrir. Et tu auras bien raison, car Mona, elle, te comblera. L'insouciance, là, que tu vis aujourd'hui, tu la troqueras contre les responsabilités. Et tu verras, Gégette, au bout du compte, cette insouciance qui te porte aujourd'hui, tu la regretteras. Mais elle fera tout de même son taf, hein. Elle te portera là où même dans tes rêves, tu ne pensais pas aller. Tu seras tellement fière du chemin parcouru. Ça n'aura pas été simple, ni facile. Mais tu auras su laisser la place aux jolis signes de la vie. Finalement, dans ta vie, un peu comme dans ce bus 28, tu y monteras joyeuse, sans savoir vraiment où tu finis.
cm², 3,40 kg, ça fait pas grand, ça fait pas lourd, et pourtant... Quand j'étais plus jeune, je suis passé de gosse hyperactif toujours un peu décalé à animateur. D'adolescent régulièrement encadré, même pas peur de me bagarrer, à encadrant responsable. De jeune homme déconnant à adulte contenant. Un petit frère, un BAFA, une tumeur à 17 ans, ça aide. Bref, j'avais fait ma vie, pris la bonne route, évolué. Quelque part, j'étais sur les bons rails. En même temps, avec un père cheminot. Par contre, il y avait toujours ces révoltes, ces injustices. Toujours plus de gens en souffrance sur la planète. Ce monde qui marche sur la tête. Un monde malade qu'il fallait soigner, en gros. En même temps, avec une mère infirmière psy. Ma réaction était la même. Surtout la rage, l'envie d'en découdre, la nécessité évidente qu'il fallait être aussi radical que tous ces enjeux qui nous concernent tous. C'était à chaque fois plus viscéral. Et là, 49 cm, 3,40 kg. Paf. La sidération grave. L'arrivée de ma fille, ça m'a scotché, et pas seulement là où je m'y attendais. Qu'est-ce que j'allais faire de mes indignations et de mes révoltes? Transmettre, ne pas transmettre, ou abattre d'une idée en pleine tête son innocence de gamine? Donc le défi, c'est de réussir à faire cohabiter cette toute petite vie avec le grand monde et tous ses grands soucis. Le tout en étant constructif. Animateur, encadrant responsable, adulte contenant, il suffit juste de rester ce que je suis et enfin accepter de changer mon regard sur le futur plus que de vouloir le changer. Comme un papa désormais.
J'aimerais ne jamais oublier le silence avant le premier cri de mes enfants.
Le chant des cigales en été.
Je n'oublierai jamais le battement de son cœur.
Quelque chose que je n'aimerais jamais oublier, c'est le chant des baleines.
Je n'oublierai jamais les mots de mes premiers enfants.
Je n'oublierai jamais des éclats de rire.
J'aimerais ne jamais oublier les rires de mes amis.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure.
Ça y est, c'est aujourd'hui. Je vais replonger dans ma jeunesse. Regarder dans le rétro ces 10 dernières années qui sont passées. Faire un bilan de ces années d'insouciance avec mes compagnons de galère, de fêtes, de première fois, que pour la plupart, je n'ai pas revu depuis bien longtemps. Est-ce que tout le monde sera là? Je sais déjà que non, car j'ai pas oublié l'accident de mon pote. Devant la porte de l'appartement, je m'arrête avant de sonner. J'ai 24 ans. Et je repasse à ce bal de troisième et à cette folle promesse que l'on s'était faite sur un Patrick Bruel 10 ans plus tôt. Un truc de gosse. Qui aurait cru? Sûrement pas l'adolescent que j'étais à ce moment-là, qui chantait bras dessus, bras dessous, avec ses potes, la tête embrumée d'alcool. Je toque. Et lorsque la porte s'ouvre, je revois tous ces visages plus que familiers. Ces amis avec qui, le temps de mon adolescence, j'ai refusé de penser au lendemain. Pourtant, il est bien là. Et comme tout le monde, on a échappé à rien. Les bons côtés, comme les emmerdes de la vie. Les questions durant ces retrouvailles vont bon train, mêlant curiosité, nostalgie et émotion.
Oh!
Et t'es heureux maintenant?
C'est incroyable! T'as pas changé.
Tu l'as acheté ta maison? Et tes parents, ça va?
Tu sais quoi? Maintenant, j'habite à l'autre bout du monde.
J'ai rencontré l'amour.
Ah bon? T'as arrêté de fumer?
À notre âge, c'est exactement le moment où on s'installe dans le costume des adultes, avec toutes ces responsabilités qui font flipper. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Juste du plaisir de se retrouver et le temps d'un instant, ne plus repenser au lendemain. Exactement comme à l'époque. On s'est tous éloignés avec ces années, mais ce soir-là, parce qu'on l'avait décidé, on est revenu un peu comme avant, heureux d'être ensemble. Qui est-ce que je dois remercier pour cette parenthèse? Tous les gens qui étaient présents, et aussi un peu Patrick pour sa chanson. J'ose même pas imaginer ce qu'on va pouvoir se dire après les 10 prochaines années. Je me vois bien leur présenter ma petite famille, à qui j'aurais déjà raconté 1000 fois toutes nos conneries.
Comme tout le monde, j'ai pas choisi de naître. Comme tout le monde, il y a eu des aléas dans ma vie. Depuis petite, ma vie a souvent été remplie d'obstacles, d'abandon, de trahison, de difficultés. J'ai dû les affronter, les escalader et les surmonter. La pauvreté et la maladie n'ont pas épargné ma famille comme beaucoup d'autres. La petite fille que j'ai été s'est souvent sentie démunie. Démunie de ne pas pouvoir aider face à cette adversité. Taire mes peurs, mes angoisses, camoufler ma sensibilité, ça m'a semblé être la meilleure façon de me construire, de préserver ma mère et de ne pas l'accabler davantage. J'ai grandi dans une cité sur l'île de La Réunion. À La Réunion, c'est sûr, on a les plages de sable blanc, les flamboyants, les cascades. Mais concernant les cités, la misère et la violence, je crois qu'on n'a rien à envier à la banlieue parisienne. J'ai bien vu comment mes amis se sont fait absorber par leurs difficultés. Les larmes, le désespoir, l'impuissance m'ont souvent fait trembler. Il y a plein de moments où j'ai pensé que j'allais jamais y arriver. J'ai souvent vacillé. La peur de voir ma famille s'effondrer et continuer à couler sous les dettes m'a obligée à me montrer plus forte. L'absence de compassion et le regard souvent méprisant de l'entourage m'ont appris qu'il fallait être forte et ne jamais abandonner. L'enfant que j'étais s'est alors promis qu'elle ferait tout pour que sa famille ne manque jamais de rien. L'adulte que je suis devenue tente d'y arriver. Je sais que les seuls outils que j'ai sont ma force et ma volonté. Me relever, rester debout et continuer à marcher.
On a beau tout prévoir, les imprévus existent, non ? J'ai été victime de harcèlement scolaire pendant 3 ans. Durant ces 3 années, je ne me sentais pas capable de passer au-dessus de ces difficultés. Durant un certain temps, j'ai pas pu gérer cette souffrance. Mais 2 événements positifs et négatifs dont je n'avais pas la maîtrise sont apparus. Une rencontre amoureuse et la violence. Voilà mon déclic, 2 imprévus. J'ai donc changé et j'ai repris ma vie en main. Direction, l'épanouissement. Alors, c'est vrai, j'ai réussi à m'affirmer, à avoir confiance en moi, à ne plus avoir peur, mais au bout de combien de temps ? 3 ans. C'est quand même long à mon âge. Il y a une citation que vous connaissez tous, « Quand on veut, on peut ». Mais en vérité, les changements de direction sont parfois indépendants de notre volonté. Je pense même que c'est important de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, tout régler, tout avoir. J'aurais aimé que mes parents ne divorcent pas, ne pas avoir peur, mais j'ai rien pu y faire. Tout comme je ne savais pas que j'allais tomber amoureuse. C'est comme sur un bateau, un imprévu débarque, le vent. On va faire avec, on va bouger nos voiles et on va continuer. Ça se trouve, le paysage à l'arrivée sera d'autant plus beau. Sans tous mes imprévus, aurais-je été sur le chemin du métier d'éducateur ? Peut-être pas. Et pourquoi ce métier ? Car je crois au changement, à l'évolution positive et à la résilience. C'est cet optimisme qui est au cœur de ce métier. Cet optimisme que les jeunes n'ont pas forcément connu. Malgré tout, je crois en leur réussite, en leur épanouissement. Et demain, mon but, c'est qu'ils y croient eux aussi.
Lorsque j'entends le fameux « si tu veux, tu peux », ça me donne envie de dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Car très souvent, nous avons la volonté de, mais pas la possibilité de. Je suis un exemple de rien, mais de par mon parcours, j'ai appris qu'il faut d'abord commencer par régler les difficultés d'aujourd'hui et de demain, avant d'envisager de se projeter sereinement. Me concernant, après ma 3e, dans un collège de quartier populaire, je me suis retrouvé en lycée professionnel à suivre un BEP comptabilité avec un grand nombre de mes acolytes. Bien sûr, je n'ai pas été consulté sur ce choix. Et si mes parents l'ont été, je ne pense pas qu'ils en aient mesuré les enjeux. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprenaient pas correctement le français. Une simple difficulté d'orientation. Mais ce n'était que la première. Il m'a ensuite fallu batailler avec un autre lycée afin qu'il m'intègre dans une filière technologique. Puis, après mon bac, j'ai encore dû dépasser des blocages, car le lycée m'empêchait d'accéder à ce que je souhaitais faire près de chez moi. J'ai donc dû trouver une université à l'autre bout de la France et me démener seul pour obtenir le financement qui m'a permis de mener à bien ce projet. Et puis, heureux hasard de l'existence, j'ai fait la rencontre de ma femme, qui m'a permis de me recentrer sur les choses simples et essentielles de la vie, et donc de mettre fin à ma course effrénée pour l'argent. Et c'est très probablement cet enchevêtrement qui a fait que je suis aujourd'hui en train de devenir éducateur. Ce cheminement m'a pris un certain temps, peut-être plus qu'à d'autres. Je vais m'appuyer sur mon parcours, sur les freins que j'ai pu lever petit à petit pour accompagner ces jeunes. Eux aussi, sans doute, ils ont des ambitions à déverrouiller. Je vais donc tenter de les accompagner pour qu'ils puissent, étape après étape, solutionner leur aujourd'hui et leur demain, et ainsi voir encore plus loin.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je suis
Mazar.
Il arrive.
Eh bien, on attend. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur Mazar.
Bonjour.
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 Donc, quand il y en a plus, il y en a encore.
Ouais.
Vous voulez qu'on parle un petit peu, quelque part? Alors, moi, je vous propose soit la cave, soit le cellier.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Eh bien, écoutez, pour l'ambiance...
Moi, la cave me parle énormément.
Oui. Et le cellier devrait vous parler encore plus. Mais ça, c'est une autre chose, ouais.
On peut aller voir les deux.
Oui, on va voir les deux. Allez, d'accord. Attention, la tête et les marches.
Oh, j'adore. Oh, l'odeur et tout, là.
Wow. Donc, ici, je vous le dis pour vous, pour votre gouverne personnelle, hein. Moi, je suis vigneron, de père en fils, depuis beaucoup de générations. Je suis né ici, et je suis né dans ce village, hein, il y a quelques années, bien sûr. Hein. Et, mais c'est, ici, ne me regardez pas, mais c'est un village jeune. Hein, c'est un village jeune. On a une crèche, on a une école. Enfin, je veux dire, c'est un village qui a beaucoup de jeunes vignerons qui s'installent, hein, qui prennent la suite des parents, ce qui est mon cas, hein, ce qui est mon cas, puisque mes enfants, Damien et Marie-Pierre, le garçon et la fille, ont pris la succession de mon domaine.
Voilà. Je voulais juste vous parler du vin parce que c'est quand même un produit qui a besoin de temps pour arriver à maturation, etc. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé du fait que c'est quelque chose de vivant, qu'il y a des personnes qui le travaillent, etc., que c'est tout un processus pour arriver au produit fini. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question du temps
D'abord, pour avoir un bon vin, il faut avoir de beaux raisins. Et pour avoir de beaux raisins, il faut avoir une belle vigne. Pour avoir une belle vigne, il faut que des gens, vous venez de le dire, enfin, les travaillent, quoi. Et là, il y a des femmes et des hommes qui sont très présents. On dit souvent, c'est vrai, que le vin était réservé plus aux hommes, plus à la façon de faire, mais aujourd'hui, vous avez d'excellentes vigneronnes, hein, et j'en veux qu'en preuve. Moi, j'ai des voisines, là, aujourd'hui, il y a ma fille. Enfin, je veux dire que c'est bien, bien, bien démocratisé, et on n'a pas eu besoin d'organes féministes pour nous faire changer d'avis. Voilà. Donc, ceci étant dit, et c'est vrai que une vigne, quand on la plante, un cépage, quand on le plante, c'est pas pour un jour, c'est pas comme le blé, l'orge, tel céréale. Non, on plante, nous, pour minimum, c'est 20 ans, quoi. Hein. On est dans les hautes corbières, nous. Hein. Donc, on est dans une région, beaucoup de cailloux, difficile, des sols peu profonds, difficile à travailler. Et donc, la vigne, eh bien, déjà, pour qu'elle s'accroche, il faut 3 ou 4 ans. Donc, la première vendange va venir au bout de 3 à 4 ans. Et là, au bout de 3-4 ans, c'est pas un seau qu'on va remplir par souche, c'est on va ramasser 2 raisins, quoi, hein, ou 3, voilà. Hein. Donc, c'est quand même du temps entre la première fois que tu plantes une vigne et après que tu vas récolter, parce que les premiers vins, que ça se soit un peu qu'il y ait du goût, etc., il faut quand même 8-10 ans, quoi, hein, voilà.
J'ai beaucoup de patience parce que vous voyez pas le résultat de votre travail de manière immédiate, en fait.
on le voit déjà pendant les vendanges. On peut l'anticiper, nous, pendant les vendanges. On l'anticipe au jour J, mais on ne l'anticipe pas au jour J plus 3. Quoi, hein.
Alors, ouais. Vous pouvez anticiper, mais il y a un facteur que vous ne pouvez pas anticiper. Ma question, c'est comment vous réussissez à rebondir ? C'est la météo.
Oui.
Comment est-ce que vous faites ?
La météo fait partir des facteurs qui sont aujourd'hui incontournables. Voilà. Et qu'on regarde. Mais malheureusement, on n'a pas, même la météo n'a pas la science exacte. Hein. C'est pas du zéro faute, quoi. Hein. Voilà. Tu parlais de ton métier, je sais pas qu'est-ce que tu fais comme métier.
On est éducateur. Mais voilà, on travaille sur de l'humain. Il y a des facteurs qui, pour nous, sont insaisissables parce qu'on travaille justement avec de l'humain. Et c'est justement ce qui est riche, mais ce qui rend justement le métier complexe. Et je trouve que le parallèle, il est intéressant parce que la notion de temporalité, la notion de transmission, qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment est-ce que justement, tu parles d'anticipation, comment est-ce qu'on fait du temps un allié et pas un handicap, tu vois,
c'est... Mais cet allié, forcément qu'il y est, et on en a besoin, parce que... Et puis on a le mental qui est pour, quoi. Hein. Aujourd'hui, on se dit que le temps fait partie de ces inconvénients de la vie, du métier de vigneron. Et ça, tu ne l'enlèveras pas aujourd'hui, et je pense même pas demain. Oui, alors, si vous... Oui, maintenant, si vous voulez, on va aller au cellier. Et on va aller, je vais vous faire quand même voir d'abord le cellier et puis déguster quand même les produits, quelques produits de l'exploitation. À moins que vous voulez les déguster tous, hein, il y en a 11. Hein.
Ah ben, allez, avec plaisir.
Vous le sachez. Hein. À 15 ans, j'étais révolté. Je voulais tout cramer, les politiques, mon lycée et tous ceux qui me volaient une vie simple et heureuse. À 15 ans, j'ai été choqué par la manif pour tous et le traitement qu'on réservait aux homosexuels. J'avais le sentiment qu'on les empêchait de vivre. J'observais au lycée l'homophobie rampante. Ça a réveillé chez moi une révolte, un feu intérieur, qui m'a poussé à me battre contre ces homophobes. À 20 ans, j'ai goûté au plaisir de, comme diraient certains, la société du spectacle. Un travail, un salaire, un appart, des vacances. Ces plaisirs m'ont fait accepter les règles. Je les ai même intégrées. J'ai fait rentrer un mirador dans ma tête. J'ai commencé à me surveiller moi-même. Peut-être que j'ai perdu un peu de ce qui faisait de ma personnalité. Qu'elle s'est lissée. À 20 ans, j'ai été touché par le combat d'ACT UP. Des homosexuels, transgenres, travailleurs du sexe, à qui certains refusent une vie tranquille, qui s'organisent pour vivre et survivre au sida. Ils revendiquent leur identité, qui est très mal vue socialement. Aujourd'hui, c'est en assumant une identité en dehors des valeurs dominantes que je me sens libre, en écoutant du rap, en me rapprochant de ceux que la société rejette, les usagers de drogue, les jeunes délinquants, les migrants et les voyageurs. Aujourd'hui, je m'interroge en devenant éducateur. Est-ce que je peux, est-ce que je dois transmettre à des jeunes le respect des lois et d'institutions que je voulais cramer il y a 7 ans ? Est-ce que c'est ça mon travail ? Je ne pense pas que ça soit ça qu'on attend de moi. Je pense que mon futur, c'est d'accompagner, de protéger des jeunes que la société met en danger, et pas de les faire accéder à un boulot, une voiture, un pavillon et un chien.
Chica de dans 15 ans. Si tu lis cette lettre, c'est que tu t'es enfin décidé à faire le ménage derrière le buffet et que tu as trouvé ma cachette. J'espère que tu te portes bien, que tu es épanouie en tant que maman et fière de constater que tu as su les élever dans le respect des promesses que tu t'étais faites. Rassure-moi, s'il te plaît, et dis-moi que tu restes à cheval sur les valeurs telles que la considération de l'autre. Parce que sans ouverture, point d'intelligence, comme tu aimais dire. Dis-moi que tu ne te gênes toujours pas d'exprimer ton ras-le-bol aux collègues qui ne soignent pas son langage quand il s'adresse aux jeunes, tandis qu'il exige du respect. Est-ce que tu dépenses toujours autant d'énergie dans les réunions ou les passages de consignes ? Est-ce que tu te régales toujours autant de participer à des réunions animées où le ton monte ? Juste parce que tu te dis que c'est ça le métier d'éduc. Qu'il n'y a pas une compréhension d'une situation et une solution. Dis-moi que tu continues toujours de te nourrir des divergences d'opinion et que tu crois toujours en notre jeunesse. Rassure-moi, Nisrine. Dis-moi que tu es resté humble et que les expériences passées ne t'ont pas fait croire que tu détenais la vérité. Que tu crois encore que la force d'une fourmilière réside dans sa pluralité et ne se résume pas à ta petite personne de fourmi.
Nisrine, es-tu toujours aussi émue par les récits de vie voilée, parfois violée, des jeunes que tu suis? J'espère vraiment que oui, car ce serait pour moi la preuve que tu vis toujours. Est-ce que tu crois encore et toujours en notre jeunesse? Est-ce que ton nom de Zébulon continue de te coller à la peau à 51 ans, 11 mois, 7 heures et 33 minutes? Est-ce que ton travail continue d'être un kiff et une réelle fierté? Si c'est pas le cas, s'il te plaît, prends la tangente. Va, vis et deviens, mais ailleurs. Passe le mic et fais confiance à la génération à laquelle tu as cru. Sur ce, que le vaille bien.
Et voilà, pour nous les dés sont jetés, au moins pour demain.
C'est les yeux pleins d'étoiles et le cœur débordant d'émotions
que l'on partage avec vous nos 14 chemins de vie.
Et oui, pour préparer cette émission de radio, on était 14 éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y avait
Margot,
Moussa,
Nadjet,
Aurélie,
Nisrine,
Susan,
Flavien,
Léon,
Sandrine,
Beryl,
Linda,
Béatrice,
Nicolas
et Clara.
On remercie Monsieur Soublérol pour nous avoir partagé la folle histoire de la bulle.
On remercie aussi Lynn de nous avoir embarqués dans sa féerie.
Et on remercie la famille Mazar et surtout Jean-Pierre qui nous a ouvert les portes de son univers.
Jean-Pierre, aussi pétillant que le champagne qu'il nous a bien offert.
Et on remercie nos formateurs du PTF Sud pour nous avoir permis de vivre cette belle aventure. Merci à l'association Wakadi de nous avoir donné la parole.
Merci à Guillaume, à Jean-Jacques. Un cocktail d'humour, de bienveillance, de créativité, de sérieux,
c'était pas gagné.
Et on avait bien des choses à dire. Eh bien, on vous dit à demain.